qui essayent de leur échapper parce que c'est genre des zombies. Et sauf que t'es zombifié en rejoignant la chenille. C'est super drôle. C'est n'importe quoi.
Corona, jour 308.
C'est ça. Je vous jure, on va tous faire la chenille dans les rues de Paris. Ça va être terrible.
Mademoiselle Deray, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé.
Intégralement pas filmé, un podcast présenté par Alice Lavigne et Quentin Albo.
Vous êtes beau, vous êtes prêts ?
Bonjour à tous et bienvenue dans Intégralement pas filmé pour ce 7e épisode de la saison 2. Et comme à l'accoutumée, je suis toujours accompagné de la Delicia Fabulosa,
wow.
Alice Lavigne. Comment ça va ?
Eh ben écoute, moi ça va très bien, j'ai pas le corona donc tout va bien.
D'ailleurs j'ai oublié de dire, c'est le seul podcast en Île-de-France qui ne s'arrête pas malgré les recommandations sanitaires du gouvernement. Notre confinement ne fera pas stopper notre passion du podcast.
Et oui, nous, comme le dit le grand Renaud, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout.
Ouais, donc nous on est confinés dans notre studio à Los Angeles, sur Sunset Boulevard, et c'est pas trop mal, hein, franchement.
Ouais, on n'est pas dans de mauvaises conditions.
On aurait pu faire pire comme confinement. Donc voilà, vous inquiétez pas, on est toujours là, on espère pour très longtemps.
Ouais.
On touche du bois. Au sommaire de ce nouvel épisode d'Intégralement pas filmé, je vous parlerai dans ma toile de En avant le dernier Pixar.
Puis moi je vous parlerai du tout nouvel album Sad Happy du groupe Circa Waves, sorti le vendredi 14 mars 2020.
Et enfin, on vous fera des recommandations de jeux de société, qu'on appelle aussi jeux de plateau, pour toujours s'amuser en famille pendant ce temps de confinement.
Écoutez, on colle toujours à l'actu, on veut toujours avoir des recommandations des plus pertinentes. Après Animal Crossing et son extension Google Chrome, nous avons les jeux de société pour s'amuser quand on a envie de s'arracher les yeux alors qu'on reste chez soi.
J'ai quand même envie de dire au gouvernement, s'il nous écoute, nous sommes en train d'apaiser vos populations.
Je pense que oui.
On n'est même pas en collaboration avec le gouvernement français.
Ah non, du tout.
On est l'anti-BFM TV. Vous ne voulez pas psychoter, écoutez Intégralement pas filmé.
Exactement, nous sommes votre antidote. C'est nous, en fait, le vaccin contre le coronavirus. Bah écoute, Quentin, est-ce qu'on n'irait pas se faire une petite toile ?
Eh bah écoute, Alice, je te propose de te saisir de ton meilleur pied de biche et on va aller forcer les salles de cinéma près de chez nous.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde !
Alors cette semaine, comme je vous l'ai dit, je vous parle de En avant, le dernier film de Pixar signé Dan Scanlon, avec dans les voix originales notre Spider-Man préféré Tom Holland, ou encore un gardien de la galaxie qui n'est autre que Chris Pratt. Et dans les voix françaises, on retrouve l'excellent Pio Marmaille et Thomas Olivérès, qu'on a vu dans pas mal de comédies françaises. C'est en fait le petit jeune du cinéma français.
Qu'on aime beaucoup.
Avec Vincent Lacoste. Tu vois, ils sont deux. Il y a Thomas et Vincent. Je les appelle par leur prénom parce que je les connais personnellement. C'est faux. Alors attention, synopsis des plus courts mais des plus efficaces. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Écoutez, c'est très flou en fait. C'est pas vraiment ce qui se passe.
C'est un synopsis Disney.
Donc je vais vous résumer le film autrement avec mes mots. Je vais un peu détailler, sans pour autant divulgâcher ce film exceptionnel. Donc on retrouve dans ce film effectivement deux frères elfes. Et en fait, ce monde imaginaire est un monde dans lequel la magie existe, mais elle est tellement compliquée à exercer que la technologie a pris le dessus. Donc dans le film, on nous le montre par rapport à les sorciers pouvaient éclairer avec leur bâton magique et un gars invente l'électricité et tout le monde se dit bah, c'est quand même bien plus simple d'appuyer sur un bouton que de se concentrer pour créer de la lumière.
Ce qui est pas faux.
Et donc on se retrouve dans un monde où la magie a existé mais elle a disparu parce qu'elle était trop compliquée. Et ces deux frères elfes, lorsque le cadet devient majeur, ils reçoivent un cadeau de leur papa décédé et ce n'est autre qu'un bâton de magie avec une formule qui peut ramener leur père pendant 24 heures.
Ok.
Ils s'y essayent, ils s'y ratent et ils se retrouvent avec seulement le bas du corps de leur père et ils ont donc 24 heures pour essayer de ramener la seconde moitié de leur père pour pouvoir enfin peut-être parler et le rencontrer. Et donc c'est un voyage, deux frères, l'un qui ne croit pas du tout en la magie, qui est le cadet, lui c'est vraiment full techno, genre je ne sais pas ce qu'est la magie, je m'en fous. Et son grand frère, lui, est un fan de jeux de rôle, et en fait les jeux de rôle dans ce monde fantastique reposent sur l'histoire en fait, donc les mages ont vraiment existé, et du coup lui il est extra fan de magie, et il connaît tout sur tout, et donc cette alliance du cadet qui peut faire de la magie, et de l'aîné qui connaît tout sur le monde magique, ils vont partir ensemble dans cette quête, et ça va être vachement sympa. Moi je l'ai vu en VF, shame on me. c'est pas grave. Et franchement, elle est pas mal du tout.
Ouais.
Thomas Olivares en enfant de 16 ans, ça passe tout à fait crème. Il a un peu comme Tom Holland, du coup, en VO, ce petit côté innocence, ce petit côté sincérité, tu vois.
Mm-hmm. Ouais, je vois tout à fait, ouais.
Qui fait qu'il est tout de suite attachant. Et Pio Marmaille, tout comme Chris Pratt en VO, il a ce côté fou, tu vois.
Ouais.
Il est tout de suite crédible en geek un peu excentrique. Et ce duo marche très très bien. Ils sont extrêmement drôles. Le film a ce petit côté quête de repères familiaux qui est super intéressant.
Mm-hmm.
On découvre aussi pas mal de cultures, j'ai envie de dire magiques, fantastiques, avec des fées, des elfes, des mandragores. Tout un bestiaire de créatures extrêmement intéressant. Et ce qui est super stylé, c'est que du coup, le fait qu'elles ne soient plus magiques, ça rend le truc assez décalé.
Ouais.
Donc par exemple, les fées ne volent plus, elles sont devenues des gangs de motards.
Trop drôle.
Ce qui est assez marrant, tu vois. Et du coup, ça donne lieu à plein de situations assez cocasses. Les personnages secondaires sont extrêmement intéressants. Et c'est souvent ce que je regrette dans les films, mais rarement dans les Pixar. Mais par exemple, le personnage de la mère. Souvent, ouais. Le personnage de la mère, il est très secondaire et assez peu présent. Je pense par exemple au film Les Nouveaux Héros, où mm-hmm. c'est un peu ce même concept de parents disparus, on cherche des repères et tout. Et donc dans ce film, la tante n'a pas grand intérêt. Tu vois, elle est là, c'est une structure familiale, mais en soi, elle sert à rien. Alors que dans En Avant, elle a vraiment un rôle prépondérant dans l'histoire.
Ok.
Et c'est un personnage actif.
Je vois.
Elle a un impact dans l'histoire et surtout, elle est extrêmement badass.
Ouais.
Genre, la mère sert à quelque chose et elle fait les trucs, tu vois.
Mm.
On a aussi des personnages presque tertiaires qui sont pas inintéressants. Genre, par exemple, les fées.
Mm-hmm.
Elles apportent un humour hyper sympa dans le film. On a aussi les flics, donc notamment ce scandale.
La fameuse.
Le personnage policier lesbien qui a été censuré dans pas mal de pays.
Le premier personnage LGBT de Pixar, waouh!
Eh ben écoutez, pour une première, c'est hyper réussi, c'est pas du tout cliché, elle n'est pas du tout très masculine.
Non mais parlons-en quand même, parlons-en de cette histoire.
Non, et en plus, honnêtement, ils ont fait un tout petit peu de com' autour de ça, ce que je trouve extrêmement abusé parce qu'elle est plus qu'accessoire dans le film, elle sert à rien en fait. Et vraiment, le côté lesbien, c'est uniquement une phrase qui est « Ah, les enfants de ma compagne me rendent fou ».
Waouh!
Et c'est rien du tout. Vraiment, c'est que dalle. Mais on va pas cracher dans la soupe. Bon, par contre, le stéréotype, moi, ça m'a saoulé. Hein. Je me suis dit, putain, pour une fois qu'ils font le choix de dire, vas-y, on va mettre un personnage qui n'est pas dans les cadres hétéronormés de la société. Et franchement, ils font quand même un truc cliché. Cheveux roses, cheveux courts, grandes, pas très féminines.
Et puis, enfin, surtout, en faire une policière, quoi.
Ouais.
Surtout les personnages qu'ils auraient pu faire, une policière, c'était quand même...
Non, et puis en plus...
Assez osé.
Comme je disais, il y a pas mal de personnages secondaires qui ont un impact dans le film. Ils auraient pu en faire un personnage secondaire qui a un impact.
Ouais, par exemple, une fée motarde, ça aurait été grave badass, quoi.
Ouais, ou alors il y a un personnage qui est la mandragore. C'est une créature mi-dragon, mi-lion, mi-scorpion, enfin un truc comme ça. Elle a un gros impact dans le film. Et je me dis, ils auraient pu très bien en faire le personnage lesbien qu'ils voulaient mettre dans le film. Tu vois, pour moi, c'est pas... Ils ont écrit un personnage dont le fait qu'il soit lesbien était optionnel dans le film. C'est ils ont écrit le film et ils ont rajouté ça pour dire, écoutez, on va faire un peu de fanservice à la communauté LGBT.
Ouais, c'est ça.
Ça va être sympa, ils vont kiffer, ils vont venir voir le film.
Et surtout, ils en ont fait un personnage qu'on pouvait facilement retirer du film pour les marchés pas très ouverts. Par exemple, en Russie, juste pour ça, ils l'ont censuré et ils ont changé. Donc, elle dit ma compagne et en anglais, elle dit my girlfriend. Et du coup, ils l'ont changé en partner. Donc, je pense que bah en russe, t'as l'équivalent de partenaire, juste pour un mot, pour que ça passe en hétéro plutôt qu'un couple gay. Et je trouve ça mais tellement stupide. Et puis, enfin même, encore une fois, c'est Disney, comme t'as dit, qui fait du fanservice pour dire « Ok, il y a un personnage, mais on peut facilement l'enlever. » C'était comme dans Star Wars, là, le tout dernier, où il y avait un baiser entre deux femmes en arrière-arrière-plan. Et dans des pays comme la Chine, la Russie et les Émirats Arabes Unis, ils l'ont gommé sur Photoshop.
Ouais.
Et ils font exprès de faire des personnages et des scènes où justement cette représentation peut être gommée pour que ça impacte pas le marché international. Donc dans ces cas-là, ne le mettez même pas. Assumé, quoi.
Ouais, clairement. C'est presque insultant, genre.
C'est ça, complètement.
Je pense que je serais une femme lesbienne, je préférerais ne pas avoir ce cliché dans ce film.
Mm.
Parce que du coup, c'est presque contre-productif dans le sens où ça valide les stéréotypes que les gens ont.
Bah ouais, carrément.
Donc pas ouf, en fait. Vraiment pas top. Mais du coup, j'ai un peu hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les personnages LGBT qu'ils vont inclure dans, tu sais, genre par exemple dans Marvel.
Mm. Ouais, pareil. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être pareil?
Ouais, parce que vu que ça va être des personnages principaux.
Je suis curieuse.
Pour en revenir au film, donc ce côté-là du film n'a aucun intérêt. En plus, j'ai pas forcément été en mode ah cool, tu vois, je m'en suis battu les steaks. Un autre truc que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié dans ce film, c'est que la fin n'est pas attendue et surtout n'est pas tout est bien qui finit bien, tu vois.
Ah ouais ?
Ça finit pas mal, mais il y a un truc où tu te dis c'est réaliste. Genre, et tu vois, le message de fin, il est vraiment stylé, donc vraiment, j'encourage à voir ce film dès qu'il sera sorti en VOD, puisqu'on ne peut plus aller en salle. Mais ouais, c'était un très bon film, j'ai passé un très bon moment. Tout ce côté, genre, très bien écrit, on part sur un principe de magie, mais on t'explique quand même que la magie, ça fait pas tout et qu'elle a été presque éradiquée par la technologie. Mm-hmm. Ça, j'ai trouvé que c'est un départ hyper intéressant comme idée. Cette relation entre frères aussi, elle est hyper mignonne, parce qu'au début, ils sont pas potes, vraiment, ils s'entendent pas très bien.
Okay.
Et tu vois, j'ai trouvé ça bien de travailler sur cette relation frère-frère, plutôt que comme souvent, père-fils, mère-fils, entre générations. Là, c'est vraiment la même génération à peu près. Ouais. Et comment tu vis avec cette figure qui devrait être un modèle qui ne l'est pas. C'est des relations où beaucoup, beaucoup de gens peuvent s'identifier. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant aussi. Tu vois, je trouve que c'est un film qui prend des angles assez différents par rapport à d'habitude et qui fonctionne tout aussi bien, voire mieux.
Mmh. Et du coup, tu mettrais combien de Queen sur 5 ?
Pour tout ce que je viens de dire, à aucun moment j'ai décroché. Mmh. L'animation est folle.
Ouais.
Je trouve qu'il est hyper efficace. Et du coup, pour tout ça, je mettrais une note qui ira jusqu'à 4,6 sur 5.
Waouh !
Ouais.
Bah dis donc.
Là, je sors de mes standards.
C'est rare. C'est très rare.
C'est waouh. Non, en vrai, il est vraiment excellent. Du coup, après cette petite analyse qui sera presque fortuite, puisque maintenant nous n'aurons plus de cinéma pendant quelques temps, est-ce qu'on n'irait pas vers un média qui sera tout à fait accessible dans les semaines qui suivent en nous dirigeant dans ta petite playlist, Alice ?
Eh bah écoute, ouvre ton Spotify, ton Deezer, ton Google Play, ton Apple Music ou ton YouTube. On va faire un tour dans ma playlist.
Vous aimez Mozart ?
Oh oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Alors cette semaine, je vous parle d'un album qui vient tout juste de sortir, puisqu'il est sorti vendredi dernier, donc vendredi 14 mars. Et c'est le tout dernier album du groupe Circa Waves qui s'appelle Sad Happy. Alors je suis très contente de vous parler de cet album parce que c'est encore une fois un concept un peu intéressant puisque c'est un double album. Donc comme je vous ai dit, l'album s'appelle Sad Happy. Donc comme vous pouvez le deviner, il y a deux parties de l'album, une partie qui est sad et une partie qui est happy.
On part sur une totale dualité.
Exactement. Ils ont d'abord sorti la partie happy de l'album et après ils ont dit bon ben on va sortir sad et comme ça vous aurez un album complet. Et la partie happy a été sortie le 10 janvier 2020 et donc en fait c'était un peu comme un hippie, il y avait 7 chansons qui étaient toutes autour d'un thème joyeux comme le nom l'entend. Et donc là, vendredi dernier, ils ont sorti la partie sad et donc tu as tout l'album en entier avec les 7 chansons additionnelles sur un thème plutôt triste. Alors, avant de rentrer en détail dans l'album, je vais vous parler du groupe, comme je le fais à chaque fois, pour essayer de comprendre un peu l'univers, qui c'est, tout ça. Donc Circa Waves, c'est un groupe britannique de indie rock. Ils se sont formés à Liverpool en 2013 et le groupe est composé de Joe Falconer qui est le guitariste, Colin Jones qui est à la batterie, Sam Rourke qui est à la basse, Kieran Shuddle qui est à la guitare et qui est le chanteur principal. J'aimerais d'ailleurs faire une petite dédicace à lui-même, Kieran Shuddle, qui est un joyeux luron.
Et Dieu sait qu'on les aime, les joyeux lurons.
Il fait le zozo sur Instagram et ça me fait beaucoup rire.
Il fait le zozo sur les intraweb.
Exactement. Et en ces temps de crise, mes amis, nous avons besoin de joyeux lurons comme Kieran Shuddle. Donc si vous êtes intéressés à suivre ce joyeux luron sur les intraweb, sur Instagram, c'est Francis Waves. Je sais pas pourquoi Francis, je n'en ai aucune idée, voilà. Ils ont sorti 4 albums en tout. Le tout premier s'appelle Young Chasers, le deuxième s'appelle Different Creatures, le troisième s'appelle What's It Like Over There, et le tout dernier, comme je l'ai dit, Sad Happy. C'est un groupe que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années. C'est de la musique qui est très très sympa à écouter, je pense que ça plaît à beaucoup de gens, puisqu'ils ont... Ils n'ont pas une musique très expérimentale. Vous pouvez faire le test, leur chanson la plus connue s'appelle T-shirt Weather, qui est vraiment une bonne chanson estivale avec un petit peu de guitare, mais c'est très sympa. Voilà, c'est pas prise de tête comme musique, vraiment. Mon album préféré d'eux, c'est leur deuxième, qui s'appelle Different Creatures, qui est vraiment vraiment génial. Il est sorti en 2017, mais je pense qu'il est en train de se faire détrôner par le nouvel album. Boum, transition vers le nouvel album. Sad Happy.
Damn.
On retombe sur nos pâte. Je vais vous parler d'abord de la partie happy, vu que c'est ce qu'ils avaient sorti en premier. La toute première chanson qu'ils ont sortie s'appelle Jacqueline, comme le prénom Jacqueline, et c'est une chanson très sympa, dans la lignée de Circa Waves, qu'on a déjà entendu. Mais elle est très chouette, elle a un côté un petit peu, je dirais pas tout à fait vintage, mais un tout petit peu. C'est le genre de chanson, tu sais, pareil, que tu peux écouter dans ta voiture avec les, tu sais, les fenêtres baissées et tu danses un peu dans ta voiture quand t'es au feu rouge.
Je vois, et après les gens te jugent en te regardant de travers.
Mais toi tu t'en fous parce que tu vis ta meilleure vie. Et d'ailleurs le clip est très marrant. Ce sont des gens, genre dans des habits des années 70, ils font la chenille.
Sympa.
Non, c'est pas sympa du tout, parce que t'as un couple qui essaye de leur échapper, parce que c'est genre des zombies. Et sauf que t'es zombifié en rejoignant la chenille. C'est super
c'est, non,
drôle.
C'est, un de
c'est
ouf,
n'importe
c'est
quoi.
Corona, jour 308.
C'est ça. Je vous jure, on va tous faire la chenille dans les rues de Paris. Ça va être terrible. Donc voilà, allez voir le clip de Jacqueline, juste parce que c'est n'importe quoi. Et ça vous donne une idée un peu du, justement, ce groupe qui prend à peu près tout au 15e degré, ce que je trouve très sympa. Après, la deuxième chanson, qui est très chouette et qui est beaucoup plus rock pour le coup, s'appelle Be Your Drug, qui est une de mes préférées de l'album en entier, je pense. Et c'est ça aussi que j'aime bien avec ce groupe, c'est ce que je disais, c'est pas un groupe prise de tête, ils font du indie rock, mais souvent c'est plus genre vraiment écoutable, même par des gens qui sont pas très très fans de rock, mais ils ont quand même quelques chansons qui sont beaucoup plus imprégnées rock, grosse guitare, tout ça, dont Be Your Drug. Il y en avait pas mal sur l'album que j'avais déjà cité, le Different Creatures. Après, justement, encore dans ces genres différents, il y a la chanson Move to San Francisco, qui est ultra chill, encore une fois estivale, et c'est vrai que je comprends pourquoi cette division entre sad et happy, parce que c'est vrai que je dirais pas que c'est, il n'y a pas un côté qui est super joyeux et un côté qui est déprimant, mais c'est vraiment quand t'écoutes les mélodies, quand t'écoutes les paroles, tu sens une petite scission entre les deux.
Ouais.
Voilà, je pense que c'est à peu près tout que je dirais du côté happy, parce que et ceux qui me connaissent reconnaîtront mon côté émo. J'ai préféré la partie sad à la partie happy.
Mon petit côté Jen Ali.
Exactement. Je ne peux rien y faire. Hein. My Chemical Romance est toujours dans mon cœur. Mais non, en fait, vraiment, le côté sad, je le trouve meilleur que happy. Alors que happy est déjà très très bon. Mais pour le coup, je le trouve beaucoup plus nuancé et beaucoup plus profond. Ouais. Et d'ailleurs, donc, la première chanson qui est sortie de cette partie s'appelle Sad Happy, qui a donc donné le nom à cet album. Et elle est super chouette, on dirait plus une chanson pop. C'est ce genre de chanson. T'écoutes pas les paroles et t'as l'impression que c'est une chanson super joyeuse. Et en fait, pas tant que ça. Du coup, ça, je trouve ça assez marrant. La deuxième chanson, qui s'appelle Wake Up Call, que j'ai vraiment beaucoup aimée, celle-là, elle est plus avec des claviers, des synthés. Encore une fois, celle-là, c'est ce que je disais quand il n'y a vraiment pas un côté déprimant, un côté joyeux, c'est que, bon, il y en a certaines qui font plus balade, mais dans le côté sad, les chansons qui sont un peu plus punchy, ben c'est pas déprimant du tout, c'est pas larmoyant, c'est vachement joyeux, sauf dans les paroles.
Si je comprends bien ce que tu dis, c'est des chansons dont le contenu est triste, mais dont la forme est pas genre mélancolique.
Exactement. Il y en a deux sur les sept qui sont un peu plus mélancoliques. Il y a la troisième qui s'appelle Sympathy, qui est un guitare-voix. Et là, tu comprends très clairement que c'est une chanson triste. Et t'as la dernière qui s'appelle Birthday Cake, qui là a de la batterie, de la guitare, mais t'as ce sous-ton mélancolique qui est vachement intéressant. Mais toutes les autres, c'est vraiment... ouais, t'écoutes pas les paroles et puis tu passes un bon petit moment, tu peux danser dessus et tout sans te rendre compte vraiment de...
Ouais.
Je vais pas dire la gravité des propos, mais... Et justement, j'en viens à une de mes préférées. Je pense que c'est ma préférée de sad et une de mes préférées de sad happy. Elle s'appelle Battered and Bruised, leur tout dernier single. Elle est trop chouette. T'as ce côté un peu pop rock et en même temps t'as de la guitare. Enfin, ils arrivent, je trouve, à mélanger plein de genres, ce qui fait que je pense que beaucoup de gens peuvent y trouver leur compte. Et surtout, donc, c'est une... enfin, le refrain, c'est « My heart is battered and bruised ». Donc, en gros, son cœur est en très, très mauvais état. Il est piétiné et il a des bleus. Et pourtant, ça commence et c'est des gens qui s'y flottent, tu vois. Donc, c'est vachement antithétique. Et je trouve ce contraste vachement intéressant.
T'as utilisé le mot antithétique, et ça, je trouve ça fou.
Est-ce que ça se voit que la demoiselle a un bac L?
Waouh.
On en revient toujours à... J'ai l'impression que c'est un thème très très récurrent dans ce podcast et ça m'effraie beaucoup. J'ai un seul gros bémol avec cet album, c'est la couverture. C'est une personne grimée en clown.
Ah, la chlorophobie d'Alice.
Coulrophobie,
pardon.
Si vous n'avez pas suivi depuis nos débuts, j'ai une phobie aiguë des clowns. Je déteste ça, vraiment. Ça me met très mal à l'aise et ça me fait très très peur. Et ils ont fait, en gros, tout leur visuel autour de cet album, c'est les clowns. Et en même temps, je comprends pourquoi. Parce que justement, il y a ce truc de les clowns, oui, tu sais, souvent, il y a une larme, mais ça fait rire. Je comprends. Mais moi, personnellement, j'aime pas. Et donc, par exemple, le clip de Sad Happy, j'ai pas pu le regarder parce que c'était que des clowns.
Oupsie.
Donc bon, j'écoute les chansons, je ne regarde plus les clips. Regardez que celui de Jacqueline avec la chenille.
La chenille de zombie, hein, on le rappelle.
Mais pourquoi toujours les clowns? Laissez-moi tranquille, j'en ai marre.
Bah ouais, tu m'étonnes. En 17 épisodes, 4 fois, c'est un bon petit ratio de clowns
tous
les 4 épisodes. Allez. Écoute Alice, du coup, malgré ce petit contre-temps de clown sur la pochette, est-ce que tu pourrais donner une note sur 5 petites têtes d'Alice non grimées en clown à cet album?
Alors bien sûr, dans ma note, je ne tiendrai pas rigueur des clowns parce que ça n'entache pas la musique.
On admire cette objectivité.
Voilà. Hein, c'est bon, je ne suis pas non plus folle. Hein. Je pense qu'on part sur un bon 4,5.
Oh!
Ouais.
On est sur une moyenne de 4,55 pour ce podcast pour l'instant. Hein.
Ouais. C'est un très très bon album.
Qualitative.
Ouais. Très très bonne surprise. Et je pense, comme je l'avais dit, qu'il est en train de détrôner Different Creatures, mon album préféré de Circa Waves.
En plus, c'est pas si courant que ça que tu mettes des bonnes notes, toi.
Non!
Je vous propose d'enchaîner, ma chère partenaire de jeu.
Oh, je vois ce que tu viens de faire. Eh ben, écoute, allons déplacer nos pions et lancer les dés.
Attends, je lis les règles avant. Laisse-moi ouvrir la boîte, s'il te plaît.
Allez, magnéto.
Magnéto, Madine. Donc cette semaine, comme on vous l'a dit, on vous recommande des jeux de société, autrement dit jeux de plateau, autrement dit moment où on se dispute avec toute la famille pour savoir qui fait la banque et qui a acheté la Gare du Nord. Mais cette semaine, on vous propose des jeux que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez peut-être pas, mais en tout cas qui vous donneront beaucoup de plaisir pendant ces moments de confinement. On a deux jeux à vous proposer cette semaine en recommandation. Le premier étant Unlock, qui est un jeu d'escape game en plateau, qui est très sympathique.
Et le deuxième, vous en avez très certainement entendu parler, puisque c'est le jeu de société Burger Quiz, adapté de l'émission du même nom.
Alors pour ma part, je vais vous parler de la gamme de jeux Unlock. Donc Unlock est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. J'imagine que vous savez tous très bien ce qu'est une escape room. C'est donc une salle où il faut s'échapper en moins de 60 minutes. Unlock vous fait vivre ses expériences chez vous autour d'une table. Donc c'est après avoir pris connaissance d'un contexte de scénario que vous commencez votre aventure dans une pièce. Donc c'est une carte qui indique une pièce avec divers numéros. Chaque numéro correspond à une carte et chaque carte correspond à un indice, un objet, un mécanisme ou bien même seulement un personnage qui vous fera avancer dans l'aventure. Les jeux de plateau sont liés à une application mobile qui fait pour vous le décompte et qui vous permet de rentrer par exemple vos réponses, les codes de cadenas, d'enclencher les mécanismes. Chaque carte a une couleur, chaque couleur peut s'associer à une autre couleur, par exemple les rouges et les bleus peuvent s'associer entre elles, les cartes vertes sont les cartes mécanismes à résoudre, et les cartes grises sont les cartes que vous avez pour votre voiture, qui montrent que vous en êtes le propriétaire, et les cartes grises sont les cartes indices. Ouais. Alors l'application est compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, ce qui est plutôt pratique pour que tout le monde puisse jouer. Donc comme je l'ai dit, elle permet d'obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d'entrer les codes découverts. Elle contribue également à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours final. Chaque boîte Unlock contient 3 scénarios qui peuvent se jouer indépendamment. Vous pouvez commencer par celle que vous voulez, certains scénarios sont disponibles en boîte individuelle. Dans chaque boîte, on a grosso modo un scénario simple, un scénario moyen et un scénario compliqué. Voilà pour la présentation du jeu. Et en tant que très récent joueur, puisque j'ai découvert ces jeux hier et que j'y ai joué hier, j'ai trouvé que c'était vachement sympa, que t'as vraiment on peut se dire t'as pas la sensation d'enfermement, mais avec l'ambiance sonore, ouais, le compte à rebours qui est sous tes yeux qui découle, T'as vraiment cet empressement, donc évidemment que tu t'engueules encore une fois avec ton équipe en disant « Putain, mais ça, faut le faire, ça, faut le faire. » Et j'étais très sceptique par rapport au format du jeu avec les cartes. Je me suis dit ça marchera pas parce que si tu trompes de cartes, tu niques le jeu et tout. Et en fait, pas du tout, parce que comme ils le disent, chaque carte pièce montre les indices que tu trouves. Donc par exemple, sur une carte pièce, t'as une chambre, et sur le lit, t'as un petit 1, sur la commode, t'as un petit 38, mm-hmm. et donc ça correspond à des indices. Okay. Et quand tu retournes le mauvais indice et que tu l'associes à une autre carte, tu vois, à chaque fois que tu associes des cartes, tu rentres dans le jeu et donc soit il te dit bah c'est pas bon, ou alors soit quand tu retournes la carte, c'est une carte pénalité et ça te dit vous avez fait de la merde, vous perdez 3 minutes, tu vois. Mm-hmm. Et donc ça permet que le jeu se déroule très bien malgré le fait qu'il n'y ait pas de maître du jeu et qu'il n'y ait pas d'orientation, tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois.
Et cette orientation, tu l'as aussi un petit peu avec l'application, qui est d'ailleurs un concept incroyable d'avoir une application avec ces jeux de plateau. L'application te permet d'avoir des indices, donc un peu comme dans les vraies salles d'escape game, genre au bout de 30 minutes, t'as un texte qui s'affiche sur l'écran, « Avez-vous remarqué ce chiffre sur le dos de la chaise ?» tu vois. Et tu peux aussi rentrer le numéro de la carte, si jamais tu trouves pas l'indice qui va avec, et il te dit « Chercher avec la carte 32, genre chercher avec le personnage qui s'appelle Jack, s'il a pas un truc, tu vois. »
Ah, c'est trop stylé, ça.
Et donc, ouais, en vrai, ça permet que le jeu se déroule de façon hyper fluide, et du coup, t'as quand même ce petit empressement de te dire j'ai envie de finir avant les 60 secondes, les 60 ouais. minutes, pardon. Si jamais tu finis pas dans les 60 minutes, le jeu ne s'arrête pas, ce qui permet que tu n'es pas frustré de pas savoir la fin du scénario. Seulement, t'as le chrono qui continue, et du coup, tu verras ton temps final. Donc, si t'as 1h10 ou 1h20, il te dira bah t'as perdu, mais au moins t'as fini le truc, tu vois.
Ah, c'est sympa, ça aussi.
Et donc, j'ai trouvé ça hyper cool. Du coup, ça permet, en ces périodes de confinement, de continuer les escape games, qui sont des jeux très sympathiques. À ce jour, il y a 5 boîtes qui sont disponibles. Donc, 5 boîtes avec chacune 3 scénarios dedans. On est sur une gamme de prix entre 20 et 30 euros, qui n'est pas excessif pour 3 jeux, parce que du coup, ça te dure clairement minimum 3 heures. Par contre, le petit truc, c'est que nous, on a joué, on était 6, et donc, faut vraiment être très bien organisé. Parce que tu peux te retrouver à un moment à avoir genre 20 cartes sur la table, et à être un peu paumé. Donc voilà, donc je vous conseille d'acheter ces petits jeux. Ça s'appelle Unlock. C'est édité par Space Cowboys, qui est un nom un peu pas ouf, mais c'est pas grave, ils sont excellents. Et je vous propose d'enchaîner, puisque je n'ai plus du tout de trucs à dire.
Alors du coup, moi, ma recommandation, c'est le jeu Burger Quiz. Donc, il est important de connaître le concept de Burger Quiz avant de connaître ce jeu. Je suppose que si vous nous écoutez, il y a moyen que vous connaissiez. Je récapitule pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un jeu télé qui est animé par notre dieu, maître à tous, oui. Alain Chabat. Donc ce jeu se passe dans un faux restaurant. Alain Chabat est le serveur, il a son petit tablier et il est le maître du jeu. Et de chaque côté, il y a deux équipes, l'équipe ketchup et l'équipe mayo. Et ils essayent de gagner en tout 25 points. Chaque point s'appelle un miam. Donc voilà pour l'émission. Maintenant, je vais vous expliquer pour le jeu, puisque le jeu et l'émission, en fait, c'est la même chose. Ils ont retranscrit l'émission en un jeu de société, ce qui est super chouette pour les fans de l'émission comme moi. Vous avez 5 épreuves. Donc la première, ça s'appelle l'épreuve Nuggets. Donc chaque équipe doit répondre l'une après l'autre à des questions. Chaque question comporte 4 propositions et il y a une seule solution. La deuxième manche s'appelle sel ou poivre. Vous avez un thème qui est annoncé. C'est machin, virgule, machin ou les deux. Donc par exemple, ouais. Il y a Bernard Tapie, un tapis ou les deux.
Très bonne vanne.
Voilà. C'est pas moi, c'est Wikipédia qui donne l'exemple. Voilà, je ne m'attribue pas ce mérite. On vous donne une phrase, une proposition. Donc là, l'expression était « on peut le piétiner ». Et vous devez buzzer sur votre buzzer qui est en forme de burger. Donc ça s'appelle le cheese buzzer, c'est très drôle. Donc vous devez cheese buzzer et vous devez dire « on peut le piétiner, Bernard Tapie, un tapis ou les deux ». Vous dites votre réponse.
Donc par exemple, les deux.
Voilà. Ensuite, comme dans l'émission, vous avez l'épreuve des menus. Donc vous avez 3 propositions de thèmes et vous devez répondre à une série de questions sur le thème choisi. Et donc, comme dans l'émission, vous avez 2 thèmes auxquels vous pouvez répondre normalement. Et il y a souvent le dernier thème. Là, c'est un thème rouge. Les autres sont des thèmes bleus. Et le thème rouge, c'est un sujet auquel absolument personne ne peut répondre. Et si jamais vous choisissez ce menu-là, eh ben ça vous rapporte absolument aucun point supplémentaire, c'est juste que c'est très dur. Donc là, par exemple, la politique extérieure du Zimbabwe en 1883.
Voilà. Ah oui, je connais.
Ensuite, vous avez l'addition, donc on a déjà fait pas mal de parties à la maison. C'est l'épreuve qu'on apprécie le plus, en fait.
Ah ouais ?
Ouais, c'est très très marrant à jouer. Par exemple, vous avez toutes les réponses commencent par la lettre S, et donc vous posez une question, par exemple, vous pouvez agrémenter un plat avec le sel, tu vois ? Tout
safran,
bête.
J'aurais dit.
Safran, et je pense qu'il aurait été aussi proposé.
Alors que salopette, ça marche pas.
Salopette, ça ne marche pas. Et c'est très très D'accord. marrant à faire. Et quand vous atteignez ces 25 miams, vous pouvez aller au burger de la mort. Elle est terrible cette épreuve. Abominable. Terrible. Je n'ai jamais réussi. C'est trop trop dur. En gros, on vous pose 10 questions dans l'ordre et vous devez répondre aux 10 questions, mais une fois que le maître du jeu a énoncé les 10 questions. Ça paraît simple, mais quand vous devez le faire, c'est abominable. Surtout que les questions sont souvent très drôles. Donc vous rigolez à chaque fois qu'on vous l'annonce et du coup ça vous déconcentre et vous oubliez les réponses d'avant. C'est un jeu qui est super super sympa à jouer. Si vous aimez l'émission ou non, mais surtout il faut avoir un bon sens de l'humour pour y jouer parce que c'est un jeu hilarant. Hein.
Le jeu repose sur des réponses de merde, des blagues, donc ouais c'est vraiment de l'humour.
Les questions sont à mourir de rire, enfin, ça nous est déjà arrivé d'en arriver à pleurer de rire en jouant à ce jeu, enfin, il est absolument génial. Vous pouvez y jouer à partir de 2 personnes jusqu'à 7, ils mettent l'âge minimum 10 ans, personnellement je dirais un peu plus parce qu'il y a certaines blagues qui sont plutôt salaces, c'est très très drôle. Et puis vraiment, vous y croyez parce que vous avez votre petit totem ketchup mayo, donc vous avez vraiment équipe mayo, équipe ketchup. Vous avez votre cheese buzzer sur lequel vous pouvez appuyer et ça fait des petits squeak squeak, c'est rigolo.
C'est magnifique.
Les parties sont pas très très longues, donc c'est chouette, tu peux en faire genre plein à la suite. Et comme ça, le maître du jeu, il peut changer. Donc voilà, c'est tout pour le jeu Burger Quiz qui est édité par Dujardin. Non pas Jean Dujardin qui lui mérite d'aller rôtir en enfer, mais juste Dujardin. Et pareil, comme toi, c'est entre 20 et 30 euros, ça dépend chez qui vous allez l'acheter. Mais c'est très très chouette et on le répète jamais assez, en ces temps de crise, ça fait du bien de rire.
Eh bien écoutez, c'est avec une grande tristesse que nous vous quittons une fois de plus. On vous dit à la semaine prochaine. On vous dit aussi, n'hésitez pas à nous contacter maintenant qu'on est très 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 libre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram à intégralement pas filmé. Vous pouvez aussi nous contacter via le hashtag toujours plus actif qui est hashtag IPF mime au pluriel. N'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit mail à l'adresse mail intégralementpasfilmé@gmail.com et nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de streaming qui composent notre joli monde, que sont Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et autres plateformes obscures. N'hésitez pas, chers concitoyens, à rester le plus possible à votre domicile afin de ne pas contaminer l'entièreté de la population française. Prenez des nouvelles de vos aînés tant que vous le pouvez, toujours par téléphone ou par Skype si ils sont dotés de l'internet. Lavez-vous les mains très régulièrement, toussez dans votre coude et ne videz pas les magasins, ça ne sert à rien.
C'est pas l'apocalypse, hein. Vous avez juste l'air très très bête.
Bien sûr, allez voter dans des conditions sanitaires les plus optimales et gardez la pêche en ces temps de confinement. Ciao !